VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du mercredi 18 janvier. Avec vous, Abdourahmane Dia, à la une ce soir en Gambie, la tension monte. Un mouvement de troupes sénégalaises est observé vers la frontière alors que le président mauritanien tente une mission de la dernière chance. Au Mali, un camp d'ex-combattants a été la cible d'une attaque meurtrière avec près de 50 morts. La Côte d'Ivoire toujours en proie à une grogne des militaires. Des tirs ont été entendus à Abidjan et Boaké. Hors du continent, Barack Obama donne sa dernière conférence de presse 2 jours avant de quitter la Maison-Blanche. Ne ratez pas dans notre édition votre rendez-vous quotidien sur la CAN et le journal de l'économie. Mais tout d'abord, place au journal. Nicolas Pienaud, bonjour.
Bonsoir.
Alors, avant de vous retrouver plus tard dans cette édition, dites-nous tout d'abord ce qui est au menu du journal de la CAN.
Alors, retour sur les matchs du groupe A. Le Gabon qui a fait match nul avec le Burkina Faso. 1-0. C'était au stade de l'Amitié à Libreville. Les deux équipes qui se séparent donc sur un match nul. 1-0. Et à noter le coup d'envoi à 19h temps universel, toujours à Libreville, entre le Cameroun et la Guinée-Bissau.
Alors, à tout à l'heure. Je vous le disais dans les titres, la pression monte sur Yahya Jammeh qui refuse de quitter le pouvoir en Gambie. Le président élu Adama Barrow doit prêter serment demain jeudi. Bagassi Koura revient sur les derniers développements.
Le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, est en mission de la dernière chance à Banjul. Il va tenter d'obtenir une solution à la crise. Le président sortant, Yahya Jammeh, conteste sa défaite électorale et refuse de céder son fauteuil. Le Sénégal a présenté ce mercredi un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un projet visant à autoriser la CEDEAO à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une passation de pouvoir en Gambie. Des colonnes de l'armée sénégalaise se sont rapprochées de la frontière avec la Gambie. Des habitants de Dioulou et de Jigonchor ont rapporté des mouvements de troupes vers la frontière avec la Gambie, laissant penser à l'imminence d'une intervention militaire pour déloger le président Yahya Jammeh, dont le mandat se termine ce soir à minuit. Yahya Jammeh qui refuse toujours de reconnaître la victoire d'Adama Barrow, dont l'investiture est prévue demain jeudi.
Bagassi Koura, merci. Direction le Mali, à Gao précisément, où un camp sont cantonnés, donc des combattants du groupe armé ayant signé l'accord de paix a été la cible d'une attaque meurtrière ce matin. On fait le point avec notre correspondant Boubacar Touré.
C'est un véhicule bourré d'explosifs qui est parvenu à s'introduire dans le camp. Le sergent-chef Drissa Mega, un des blessés de cette attaque meurtrière.
Ce matin, à notre grande surprise, on était en réunion en désignation des éléments de garde. Quand un véhicule, subitement, il a tapé la grande porte, on a essayé de l'arrêter, il a refusé de s'arrêter. Il a passé en toute vitesse, il est criseur jaune. Il y a une seule personne là-dedans, on n'a pas pu l'identifier parce que lui, il est mort. Il y a eu beaucoup de morts et puis beaucoup de blessés.
D'aucuns parlent d'une cinquantaine de morts. D'autres affirment que les morts dépassent la soixantaine. Les blessés couchés à l'hôpital se comptent par dizaines. Le personnel de l'hôpital a fait appel aux secouristes du CICR, de l'école des infirmiers pour leur assistance médicale. Le camp du Mok regroupe quelques 600 hommes de la plateforme de la CEMA et de l'armée malienne. Des hommes qui se préparent pour la patrouille mixte qui doit sécuriser le nord du pays. Pour l'instant, cette attaque meurtrière n'est pas encore revendiquée. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Signalons que le bilan officiel s'établit maintenant à 60 morts et 115 blessés. En Côte d'Ivoire, de nouveaux tirs ont été entendus à Abidjan et Boaké, épicentre de la mutinerie. À Abidjan, ce sont des gendarmes qui ont tiré en l'air pour réclamer leur part. Le point avec notre correspondante sur place, Narita Namatsé.
Depuis ce matin, des nouveaux tirs ont été entendus. Cette fois, c'est du côté sud d'Abidjan, dans la zone portuaire d'Evredi, qui se situe dans la commune de Port-Boué. Des gendarmes tiraient en l'air et demandaient à la population de rentrer chez elle et demandaient aux commerçants de quitter les lieux. Leurs collectifs ont duré au moins 2h, 2h30. Autour de 10h, au camp pénal de Boaké, des tirs également se sont fait entendre jusqu'au niveau du commerce, au centre de Boaké. Nous n'avons pas vraiment vérifié l'information qu'il y a eu échange de tirs entre les mutins et les gardes pénitentiaires qui s'est soldé par 4 blessés par balle. Narita Masque, VOA Afrique, à Abidjan.
Les autorités ivoiriennes appellent au calme et promettent d'améliorer les conditions des troupes. Les opérations de secours se poursuivaient ce mercredi dans des conditions extrêmement difficiles dans le nord-est du Nigeria, où l'armée de l'air a bombardé par erreur un camp de déplacés. Le bilan est maintenant de 70 morts au moins. Les frappes aériennes ont eu lieu au moment où les humanitaires distribuaient de la nourriture aux déplacés, forcés de fuir les violences. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Plusieurs régions de Somalie sont menacées de famine en raison d'une sécheresse touchant actuellement l'est de l'Afrique. C'est l'avertissement qu'a lancé le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, soulignant que 320 000 enfants somaliens souffraient de malnutrition. À 7 mois des élections générales qui s'annoncent tendues, le Kenya se dote d'une nouvelle commission électorale. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, candidat à sa réélection, a formellement désigné les 7 membres de la nouvelle commission électorale, dernière étape dans le long processus de nomination. La précédente commission avait démissionné en octobre 2015 sous la pression de l'opposition qui l'a qualifiée de partisane. Un rapport remis début 2015 au gouvernement britannique avait prévenu des failles dans la sécurité autour des hôtels de Sousse en Tunisie. C'est ce qu'a affirmé à Londres un avocat de la famille de victimes de l'attentat commis 6 mois plus tard. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique avait fait 38 morts, dont 30 Britanniques et 3 ressortissants irlandais.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dernière conférence de presse aujourd'hui de Barack Obama en tant que président des États-Unis. À 2 jours de la fin de sa présidence, il jouit d'une popularité de 60% qui le place en haut du tableau des présidents en fin de mandat. Les explications d'Eric Manirakiza.
Conforté par une cote de popularité au zénith, Barack Obama s'exprime ce soir à 19h15 temps universel devant la presse à la Maison-Blanche. C'est sa dernière prise de parole publique avant de céder son fauteuil au républicain Donald Trump. Selon les derniers sondages, M. Obama a atteint son meilleur score de popularité depuis juin 2009. 60% des Américains approuvent son action, tandis que près de 2/3, soit 65%, estiment que sa présidence a été un succès. Il y a une semaine à Chicago, Barack Obama a prononcé son discours d'adieu. Il a appelé les Américains à être des acteurs vigilants de la démocratie. Donald Trump sera investi comme 45e président des États-Unis vendredi à midi devant le Congrès américain.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Voilà tout de suite le journal de la CAN.
Et oui, le match qu'il fallait suivre ce mercredi, évidemment, à Libreville, au Stade de l'Amitié. C'est celui du pays organisateur, le Gabon. Le Gabon qui n'a pu faire que match nul, 1-0 face aux étalons du Burkina Faso. Alors que le Gabon aurait pu facilement mener largement dans ce match, il a suffi d'un contre pour que les Burkinabés ouvrent le score grâce à Nakulma. Et c'est finalement Aubameyang qui a permis de réduire le score, 1-0 grâce à un pénalty. Et donc ce résultat ne fait pas l'affaire des deux équipes. On va attendre le prochain match qui débute à 19h temps universel entre la Guinée-Bissau et le Cameroun. Match nul 0-0 hier entre le Mali et l'Égypte dans le groupe D. Les Aigles et les Pharaons ont fait jeu égal et chacune des équipes aurait pu l'emporter sur une pelouse bien difficile. Retrouvons Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Le Mali et l'Égypte ont coupé la poire en deux, se quittant sur un score vierge. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué de part et d'autre. À travers un interprète, le coach des Pharaons, Hector Raoul Cooper.
Le Mali a
Le Mali a des joueurs d'un plus grand gabarit. Nous avons tenté de contrôler le jeu en vain. Nous avons mieux joué en seconde période, mais nos joueurs étaient trop fatigués.
Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles du Mali, lui aussi a reconnu que l'adversaire était tenace.
Je pense que c'était un match assez équilibré contre une bonne équipe. Bien sûr que nous espérions la victoire. Surtout le résultat nul paraît logique, on a bien fini cette rencontre. En tout cas, moi j'ai apprécié l'organisation de notre équipe dans cette rencontre et surtout que l'on se soit mis au niveau de la compétition dans cette première rencontre.
En deuxième journée du groupe D, défi de taille pour les Maliens face aux Ghanéens. Timothée Donangmaï, Port-Gentil, VOA Afrique.
A noter que ce match est entré dans l'histoire puisque le gardien Essam El Hadary, un monument de la sélection égyptienne, est devenu le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. El Hadary, qui a soufflé ses 44 bougies dimanche dernier, est entré en jeu à la 25e minute après la blessure du gardien titulaire Ahmed El Chenaoui.
L'Africain au Gabon, hey. Ignorer c'est l'annonce, c'est pas bon. Plusieurs pays ont pris l'avion pour pouvoir jouer au foot de nombre d'années.
Dans ce groupe D, le Ghana occupe la première place. Le vice-champion d'Afrique en titre a réussi son entrée dans la compétition. Les Black Stars n'ont pas eu la partie facile face à la valeureuse équipe de l'Ouganda. Il aura suffi d'un pénalty généreux transformé en première mi-temps par André Ayou pour permettre aux Ghanéens de prendre cette première place du groupe D. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. En match d'ouverture dans le terrible groupe D, les Black Stars du Ghana ont démontré contre une équipe ougandaise qui les connaît trop bien qu'ils avaient la possibilité d'aller jusqu'au bout de la compétition. Là où la majorité des ténors présents arrivent avec des équipes rénovées ou en chantier, le vice-champion d'Afrique ramène une formation qui a du vécu, dont de la cohésion, une philosophie de jeu éprouvée, donne de l'expérience et de l'envie, sans pour autant souffrir de l'inconvénient de l'âge. En effet, avec leurs 28-29 ans, le gardien Razak et les défenseurs Boy, Afoul ou Awal font office d'anciens, là où des attaquants comme Waris, Jordan et Atsu, à peine âgés de 24 ans, ont une finale injustement perdue dans les jambes. Oui, le Ghana, c'est du consistant, du concret, du solide, avec en prime la créativité, le rythme et la tonicité. Ce ne sont pas les solides défenseurs ougandais, ballottés pendant près d'une heure de jeu par Atsu et les siens, qui nous démentiront. On se prend alors à penser que si les Black Stars arrivent à s'extraire de l'authentique groupe de la mort qu'est la poule D, ils mériteront pleinement d'endosser un costume de favori pour le sacre final. Mais avant tout cela, place à la réalité de la seconde journée de la CAN. À demain.
À suivre ce jeudi à Franceville, le retour du Sénégal qui domine le groupe B. Un match piège attend les Lions de la Teranga face au Zimbabwe. Le point avec Amdinsi à Franceville pour VOA Afrique.
En effet, Sénégalais et Zimbabwéens vont se croiser pour la sixième fois, toute compétition confondue, sanctionnée par trois succès de chaque côté. Cela veut dire que ce match aura un parfum épique car il va départager les deux équipes. Cette septième confrontation entre Lions et Warriors s'annonce difficile selon le coach des Lions du Sénégal, Aliou Cissé.
Nous savons que nous allons vers un match difficile. C'est vrai qu'on les a vus évoluer contre l'Algérie. Ça a surpris beaucoup de gens, mais moi personnellement, ça ne me surprend pas parce que ça fait un bon bout de temps que je surveille cette équipe de Zimbabwe. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous sommes dans une poule difficile où chacun aura sa chance de passer.
Pour le défenseur Kalidou Koulibaly, qui aura en face de lui des flèches comme Malagika, le match ne sera pas du tout facile.
Le match du Zimbabwe va être très difficile. Même pour les favoris, c'est bien pour eux. Nous, on sait ce qu'on est. On est là pour passer ce tour. On va tout faire pour ça. Après, voilà, que ça soit favori ou pas, nous, on est concentré sur notre match. On veut gagner ce match.
Du côté du Zimbabwe, la confiance règne. D'ailleurs, pour le coach des Warriors, Kalisa, son équipe partira avec la faveur des pronostics. Qui du Sénégal ou du Zimbabwe va prendre le dessus? Réponse jeudi soir. Ahmed Nsi, Franceville, Joie Afrique.
Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Et rendez-vous ce soir pour un nouveau journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Sans oublier notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Voilà, merci beaucoup Nicolas Pinot. Et vous suivez Le Monde aujourd'hui. L'actualité ce soir, c'est surtout la situation en Gambie où les choses s'accélèrent. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est en route vers Banjul alors qu'un mouvement de troupes sénégalaises est noté à la frontière entre les deux pays. Une situation que nous suivrons pour vous. Restez avec VOA Afrique, surtout lors de la prochaine édition à 19h30 GMT avec Anastasie Toudiech.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et on fait le point tout de suite sur l'actualité économique africaine. C'est la Minute Éco présentée aujourd'hui par Nathalie Barche.
La CEDEAO a lancé les travaux de construction d'un centre de coordination pour un marché régional d'énergie électrique au Bénin. Le centre d'Abomey-Calavi aura pour objectif de promouvoir le développement des centrales et lignes électriques en vue de produire 10 300 MW pour les 15 pays à l'horizon 2025. Le Nigeria va lancer des obligations vertes Green Bond dans le cadre des engagements pris à la COP22 pour promouvoir les énergies vertes. Un projet pilote de 2,83 milliards de naira avec des créations d'emplois est en préparation. Il est prévu notamment d'utiliser des autobus électriques entre Abuja et Suleja. L'opérateur portuaire chinois Dalian Port Corporation a lancé les travaux de construction d'une zone de libre-échange de 48 km² à Djibouti. Il s'agira de la plus grande zone franche en Afrique qui devrait créer 15 000 emplois et générer un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars d'ici deux ans. 95% des importations de l'Éthiopie voisine transitent par ce petit pays, également tout près du détroit de Bab el-Mandeb, par lequel transitent 40% du trafic maritime mondial.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui, la partie magazine à présent. En Gambie, les parlementaires ont confirmé l'état d'urgence décrété par Yahya Jammeh et prolongé son mandat jusqu'en mars. Et je vous disais plus tôt, des troupes sénégalaises seraient vers la frontière entre les deux pays. Le président élu Adama Barrow, lui, promet de prêter serment demain. De nombreux Gambiens ont fui pour trouver refuge au Sénégal. Les Sénégalais qui les accueillent partagent leurs peines et inquiétudes. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les Gambiens affluent par milliers au Sénégal, fuyant leur pays où règne désormais une incertitude totale à 24 heures de l'investiture du président élu Adama Barrow.
Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le désarroi, nos parents dans la détresse. Les Gambiens se comptent aujourd'hui par des centaines de milliers au Sénégal, en Casamance, à Dakar. Nos commerces, toutes nos activités sont à l'arrêt. Les universités fermées. Le pays, c'est le sauve qui peut. Et vraiment une situation confuse à quelques heures de l'expiration de Yahya Jammeh. La Gambie a fait son choix. Nous ne demandons rien d'autre qu'on respecte ses choix.
Malgré la situation délicate, ce jeune étudiant gambien espère qu'il n'y aura pas d'effusion de sang. Pour lui, un conflit en Gambie serait désastreux pour le Sénégal.
Les signes sont vraiment négatifs. Il y a vraiment de quoi être inquiet aujourd'hui pour la situation gambienne. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si c'est une mentalité ou quoi, mais ma conviction est que Yahya Jammeh finira par céder. Il n'y aura pas un coup de feu à Banjul. Et aujourd'hui, Yahya Jammeh, il est plus que seul. Il ne peut pas résister à tout le monde et que le Sénégal ne peut pas laisser une poudrière dans le sud de son pays. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la première victime de cette crise gambienne, ce sont les Sénégalais.
Certains Sénégalais, comme Ousmane Danfara, pensent aussi que des perturbations en Gambie auraient des conséquences dans le sud du Sénégal.
Dans le sens qu'il y a conflit, ce n'est pas une bonne chose. Les conséquences risquent d'être désastreuses, surtout pour la population gambienne. Et étant donné que la Gambie entretient en quelque sorte une relation frontalière avec la Casamance aussi, forcément il peut y avoir des répercussions. On espère que de tout cœur que cela n'arrivera pas, mais en tout cas, ça ne risque pas d'être une très bonne chose pour la Gambie et aussi pour la Casamance.
À quelques heures de la fin du mandat légal de Yahya Jammeh, Gambiens et Sénégalais partagent l'inquiétude des conséquences que pourrait avoir un conflit armé en Gambie. Ils espèrent que la situation à Banjul sera résolue de manière pacifique. Seydina Abagay, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, suite au bombardement par erreur de l'armée nigériane sur un camp de déplacés, la Croix-Rouge fait état de 70 morts. Pour plus d'explications, Claire Morin-Gibourg a joint la porte-parole Afrique du CICR, Elodie Schlendler.
Les informations que nous avons reçues font état d'une estimation donc, de 70 personnes qui auraient été tuées, plus d'une centaine de blessés. Effectivement, parmi ces personnes, nous sommes profondément attristés par la perte de 6 de nos collègues de la Croix-Rouge du Nigeria. 13 volontaires, membres aussi du personnel de la Croix-Rouge du Nigeria, ont été blessés lors de cette attaque tragique à Rana.
Comment s'organisent les premiers secours ?
Alors, très rapidement, nous avons pu transférer en fait une équipe chirurgicale à Rana depuis Maïdougouri par hélicoptère. Elle a pu très rapidement commencer à travailler dans des conditions bien sûr très précaires. Le jour même de l'attaque, nous avons déjà pu évacuer 9 personnes pour Maïdougouri et aujourd'hui les évacuations ont continué par hélicoptère. Donc hier soir elles ont bien sûr été interrompues par la nuit qui est tombée. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, nous avions pu déjà évacuer 38 personnes grièvement blessées qui devaient donc être évacuées de toute urgence sur Maïdougouri. Le total de personnes qui devaient être évacuées donc rapidement était 46 personnes qui étaient grièvement blessées. L'équipe chirurgicale a procédé au triage d'une centaine de personnes et certaines, celles qui sont blessées mais pas donc grièvement, peuvent recevoir des soins sur place. Alors bien sûr, c'est un dispensaire de fortune, c'est aménagé à l'air libre, les conditions sont compliquées, elles ne sont pas adaptées à fournir des soins post-opératoires appropriés aux personnes qui sont grièvement blessées. C'est pour ça que nous devons les évacuer sur Maïdougouri où une autre équipe chirurgicale est prête à les recevoir et à opérer.
Alors, il s'agit aussi d'une région isolée. Est-ce que vous craignez que des combattants de Boko Haram soient embusqués ou puissent porter préjudice à l'évacuation des secours ?
Écoutez, pour nous, c'est difficile à dire. On ne va pas se prononcer là-dessus. Par contre, qu'il y ait des combattants ou pas, c'est sûr que c'est les parties au conflit qui doivent finalement faire en sorte de protéger les civils, de faciliter l'évacuation de ceux qui sont blessés. Pour nous, c'est vraiment ça qui est le plus important.
C'était Elodie Schindler du CICR avec Claire Morin-Gibourg.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, le gouvernement a décidé hier de mettre fin aux activités de 2 organisations de la société civile, les activités de la Cameroun Anglophone Civil Society Consortium et de la Southern Cameroonian National Council sont donc interdites sur toute l'étendue du territoire national. Toutes choses qui soulèvent des inquiétudes, notamment chez les avocats à l'origine du mouvement de protestation dont les régions anglophones du pays sont témoins depuis des mois. John Lindon a joint à Bamenda Bogba Harmony, doyenne et présidente de l'Association des avocats de la région du Nord-Ouest.
Il me semble que le gouvernement a déclaré à mi-chemin des négociations. Il est évident qu'ils ont décidé de mener une guerre contre les personnes avec qui ils négociaient. Et on est pratiquement dans un état d'urgence déjà. On a arrêté des leaders, les avocats ont été arrêtés. C'est un responsables enseignants d'université ont été arrêtés aussi. Et nous autres, moi y inclus, nous sommes poursuivis. Et il semble que le gouvernement a le plan d'arrêter tous les leaders et de réviser la population à suivre les instructions.
Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous entendez faire? Qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure à votre niveau?
À mon avis personnel, et je pense que beaucoup des avocats partagent ça, on est vraiment embarrassé du fait qu'il y a un procès engagé au niveau du Conseil national, le Conseil constitutionnel, pour une décision sur la question du fédéralisme. Ça fait déjà beaucoup de mois. Depuis 12 juillet qu'on a saisi le Conseil constitutionnel sur le sujet que le gouvernement a décidé n'est pas discutable. Et nous nous posons la question, est-ce que la communauté internationale peut se croiser les mains et laisser une partie d'humanité mater de manière où ça se passe maintenant?
Et comment vous expliquez les troubles qu'il y a sur le terrain? On a vu des manifestations, on a vu du côté du gouvernement la police maltraiter des étudiants, notamment, depuis le début de cette affaire.
C'est une situation vraiment regrettable parce que de même voix, le gouvernement dit qu'il veut négocier et ils ont commencé même à négocier comme les terroristes et ils veulent appliquer la loi contre le terrorisme qui porte la peine de mort. Le jugement est déjà rendu, le procès sera seulement une formalité. Ils ont déjà pris leur position que voilà ce qui va se passer.
On a aussi parlé des réseaux sociaux ou des communications qui sont coupées dans les provinces anglophones. Est-ce que c'est une information exacte?
Curieusement, ça renforce le fait que cette zone anglophone de la Southern Cameroun est vraiment différente du reste du Cameroun. Donc, il renforce la logique que nous menons.
C'était Bobga Harmony, doyenne et présidente de l'Association des avocats de la région du Nord-Ouest du Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, qui sera investi ce vendredi 45e président des États-Unis, a promis de sévir sur l'immigration clandestine et déporter 2 à 3 millions d'immigrants sans papier qui, selon lui, ont des antécédents criminels. Un reportage de Mike O'Sullivan rendu par Arzuma Compaoré.
La bataille sur l'application des lois d'immigration a déjà commencé dans certains états et villes qui veulent résister à la pression fédérale. Donald Trump a exposé son plan d'immigration en août à Phoenix.
Quiconque est entré aux États-Unis illégalement est sujet à l'expulsion. C'est pour cela que nous avons des lois et que nous sommes un pays. Sinon, nous n'avons pas de pays.
Donald Trump a estimé à plus de 2 ou 3 millions d'immigrants sans papier, avec casier judiciaire chargé. Pour beaucoup, ce n'est pas rassurant. Plus de 2,7 millions d'immigrants sans papier ont été déportés sous le président Barack Obama. Des activistes ont manifesté contre ce qui, à leurs yeux, risque d'être encore plus sévère sous Trump. Kevin DeLeon, un habitant de la Californie.
Je reconnais qu'il sera le président ces 4 prochaines années. C'est notre réalité. Nous voulons trouver un terrain d'entente là où nous le pouvons. Mais nous sommes également prêts à défendre la prospérité de la Californie.
La Californie a recruté l'ancien ministre de la Justice, Eric Holder, maintenant avocat privé, pour lutter contre l'administration Trump sur les questions allant de l'immigration au changement climatique. Certaines villes, dont Los Angeles, limitent la coopération avec l'agence fédérale connue sous le nom de l'Office de l'immigration et des douanes. Luis Quiñones, membre du conseil consultatif hispanique de Trump, précise que ceux qui doivent avoir des craintes sont les criminels et les musulmans qui voudraient faire du mal. Luis Quiñones.
We are going to be targeting extremes.
Nous allons cibler les musulmans extrémistes qui ne sont pas pacifistes. Quiconque veut faire du mal n'est pas bienvenu. Nous les poursuivrons.
La Californie est l'un des 12 États qui permet aux immigrés sans papier d'obtenir un permis de conduire. Les immigrants légaux sont divisés. Certains s'opposent au plan pour renforcer la loi, expulser les criminels étrangers et construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. D'autres le soutiennent. David Wang, immigrant chinois.
Je ne pense pas que les immigrés légaux voudraient voir des immigrés clandestins, surtout ceux qui ont commis des crimes, rester dans ce pays.
Les immigrés illégaux représentent 3 à 4% de la population des États-Unis. Les mesures fédérales d'application de la loi s'intensifient. Les dirigeants locaux affirment que le débat est passé de Washington à d'autres villes américaines.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma. Présentation Abdourahman Dia. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.